Merci. Merci à l'équipe musicale. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Vous savez, le premier dimanche comme ça de l'année, j'aime pouvoir saisir l'occasion de s'encourager dans notre relation avec Dieu, dans notre marche avec Dieu. Ben, en fait, c'est le but aussi de chaque dimanche où on veut que notre marche, notre relation avec Dieu aille de progrès en progrès. Mais particulièrement le premier dimanche, j'aime saisir l'occasion où on peut s'encourager à prendre ce temps où on va s'asseoir avec Dieu, où on va prendre le temps d'ouvrir la parole de Dieu en courant de la semaine, où est-ce qu'on va prendre cet engagement-là de culte personnel. Est-ce que ceux qui étaient là l'année passée, vous vous souvenez de mes deux chaises? Hein? C'est la prise 2. C'est la suite. J'avais peur que vous l'aviez oublié, fait que je l'ai ramené. Mais vous savez, le temps qu'on peut prendre avec Dieu, c'est important. C'est important qu'on prenne le temps de s'asseoir avec Dieu. J'aime beaucoup une déclaration que Paul dit, « Christ est ma vie. » Est-ce que Christ est votre vie? Est-ce que Jésus est votre vie? Est-ce que vous êtes déjà arrêté à penser à qu'est-ce que ça veut dire que Christ soit ma vie? Qu'il est tout ce que je suis? On dit qu'une des journées de la semaine les plus difficiles, on dit que c'est le mercredi. Ben, je ne sais pas pour vous, là, mais peut-être d'ordre général, on dit que c'est le mercredi parce que c'est le milieu de la semaine. Puis pour certains, le mercredi, c'est un petit coup à donner parce qu'après ça, hop, on arrive bientôt vers la fin de la semaine. Pour être un enfant de Dieu, c'est quoi? Le dimanche matin, on vient à l'église et c'est bien, c'est une belle chose, c'est une bonne chose que de pouvoir venir en assemblée, que de pouvoir côtoyer des frères et des sœurs face à face, autre que par courriel ou par téléphone, et qu'on puisse avoir cette relation-là. Le dimanche soir, on peut venir un mercredi soir, et tout cela est bien. Mais un enfant de Dieu, ça ressemble à quoi le mercredi? Ça ressemble à quoi un enfant de Dieu le lundi, le reste de la semaine? Si Christ est ma vie, c'est plus que le dimanche matin, c'est plus que le mercredi soir, ou peu importe quel que serait le moment que vous mettez à part, mais est-ce que c'est toute votre vie? Et ce matin, j'aimerais qu'on voit de façon brève, parce qu'on va continuer aussi par la table du Seigneur, de façon brève, que Dieu veut être avec nous. Dieu veut être avec toi à chaque instant. Christ est ma vie, et il le veut. Il veut être ta vie. Il s'intéresse à toi. Est-ce que tu crois ça? Crois-tu que Dieu a un intérêt pour toi le mercredi matin? Oui, il y en a un intérêt pour toi le mercredi matin. Il veut en savoir plus de toi. Mais oui, il te connaît parfaitement. Il te connaît comme s'il t'avait tricoté. Mais il veut connaître. Il veut avoir cette relation-là intime avec toi. Il veut être impliqué avec toi le mercredi. Il veut participer à ta vie. Christ est ma vie. Et les deux chaises que j'ai apportées ici peuvent représenter que Christ est ma vie et prendre un temps assis avec Dieu, avec lui, c'est bon. C'est bon que de s'asseoir avec Dieu, en tête à tête, quotidiennement, puis de prendre un café avec Dieu. Hein, pourquoi pas? Pourquoi pas avoir ce temps de tête à tête avec Dieu? Le temps de culte personnel, ce que je veux faire ce matin, c'est que c'est plus que d'avoir un encouragement à lire les Écritures, parce que c'est important, c'est une bonne chose que de lire et d'avoir cette connaissance qui va s'accroître avec la lecture. Mais le but derrière ça, c'est quoi? C'est un temps que j'ai avec Dieu. C'est un temps où je m'assois avec lui et puis on passe du temps ensemble. Puis ça, c'est bon. Est-ce que vous croyez ça? C'est bon. J'aimerais qu'on prie. On va ouvrir les Écritures ensemble de pourquoi est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que ça a de bon, le fait de s'asseoir avec Dieu? Alors, prions. Seigneur, on vient devant toi pour te louer et puis pour t'adorer parce que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui contrôle toutes choses. Un Dieu qui est dans le ciel, mais qu'en même temps, il est tout proche de nous. Tu t'intéresses à nos vies. Et s'il y a quelqu'un qui pourrait être occupé, Dieu, c'est toi. Et puis pourtant, c'est toi le premier qui manifeste ce désir de t'asseoir avec nous. Seigneur, on veut apprendre ce matin, on veut ouvrir nos cœurs pour bien comprendre, Seigneur, le bienfait que d'avoir ce temps avec toi régulièrement. Que tu sois notre vie dans tous les aspects de nos vies. Viens toucher nos cœurs, Dieu, viens nous encourager. Et viens continuer de nous transformer. C'est au nom de ton Fils que je te prie. Amen. Il y a le temps de culte personnel pour lequel j'aimerais qu'on commence. Je ne resterai pas assis tout le long, là, parce qu'il y en a qui ne me verront pas en arrière. Là. Mais on peut s'asseoir avec Dieu. Et c'est le premier aspect de notre journée qu'on pourrait avoir avec Dieu. Ce temps de culte personnel. Puis c'est bon. C'est une bonne chose. Et dans ce texte qu'on cite régulièrement, que je citais aussi au moment qu'on... La première fois, j'avais apporté ces deux chaises-là. Dans Apocalypse, Dieu nous dit... Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, puis je souperai avec lui, puis lui avec moi. Dieu est en train de s'adresser à une église. Dieu est en train de s'adresser à des croyants. C'est une bonne chose qu'on puisse le citer à des incroyants ou que Dieu frappe à la porte de leur cœur puis veut entrer. Mais c'est vrai pour nous aussi, pour les croyants, où Dieu a ce désir de s'asseoir avec nous. Dieu a le désir de prendre un temps avec moi. On a tellement de choses à faire dans nos journées. Vous pourriez avoir, on a tous des vies différentes, on est tous à des moments différents de nos vies peut-être, mais quoi qu'il en soit, on vit dans une société, dans un monde que les journées passent tellement vite, que nos vies sont bien remplies, que ce soit du travail, que ce soit de s'occuper d'enfants, que ce soit de s'occuper d'un ministère, que ce soit de s'occuper de différentes affaires, qu'on a l'impression qu'on court, puis qu'on court, puis qu'on court, puis que qu'est-ce qui nous reste comme temps? Prendre un temps avec Dieu, de s'asseoir avec Dieu, c'est bon parce que c'est un temps d'intimité avec lui. Tournez avec moi dans 1 Pierre 2. C'est un temps d'intimité. Quand je m'assois avec Dieu, c'est un temps d'intimité avec Dieu. Est-ce que vous avez déjà pris le temps de réaliser ça? Être tout seul avec Dieu. V'là quelques temps, v'là des quelques alliances passées, peut-être que les gens n'auraient pas espéré une aussi grande proximité. Puis on a ce privilège que d'être en relation et en communion perpétuelle avec Dieu. Et on peut prendre le temps de s'asseoir puis d'être en relation avec lui. 1 Pierre 2 dit, et là je vais vous lire la version second 21, « Débarrassez-vous donc, au verset 1 à 3, de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie, de toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. » Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Quand on a goûté quelque chose qui est bon, on en veut encore. Vous êtes d'accord? Quelle proximité est plus grande qu'il peut y avoir entre un bébé puis sa maman qui est en train de nourrir, ce bébé qui désire ce lait qui va lui fournir l'énergie, qui va lui fournir la croissance, qui va lui fournir tout ce qu'il a de besoin, et en plus, ce temps d'intimité aussi avec son parent. Mais Dieu nous donne le privilège que de goûter qu'il est bon, que d'avoir ce temps d'intimité avec lui. Est-ce qu'on prend le temps de s'asseoir avec Dieu régulièrement? Parce que Dieu veut être intime avec moi, et puis il veut prendre ce temps-là. On a, chacun d'entre nous, je suis convaincu, que dernièrement, vous avez pris un temps à part pour manger. Sinon, vous ne seriez pas très fort ce matin. On a besoin de prendre ce temps pour manger. Mais ce temps que l'on s'assoit avec Dieu pour goûter qu'il est bon, pour goûter qui il est, pour apprendre qui il est. Est-ce qu'on désire ce point-là d'être avec Dieu au point de lui consacrer ce temps? Jérémie disait, « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées et elles ont fait la joie de mon cœur. Matthieu, dans Matthieu 4:4, Jésus disait, « L'homme vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » La parole de Dieu, ce que Dieu me dit, l'intimité que j'ai avec Dieu, je peux goûter que Dieu est bon. C'est le lait, on est comme des enfants nouveau-nés, puis qu'on devrait désirer ce lait qui est pur, qui est parfait pour notre croissance. Qu'est-ce que vous pouvez avoir de mieux pour votre croissance que ce lait? Qui n'est pas le lait que Paul parle aux Corinthiens, là, qui parle que vous devriez être rendu à la viande, mais ce lait qui est comme des enfants nouveau-nés qu'on a de besoin. Est-ce que vous avez déjà réfléchi au modèle de Jésus dans la prière? Jésus a resté approximativement 33 ans sur la terre. Souvenez-vous une des dernières paroles qu'il a dit sur la croix? Tout est accompli. Avec cette courte vie, il a réussi à tout accomplir ce qu'il avait à faire. Puis pourtant, il se retirait régulièrement, hein, dans les lieux déserts, pour faire quoi? Pour prier. Il avait le temps. Il avait le temps de prendre du temps avec son Père. Mais en fait, c'était plus que « il me reste du temps, je vais aller prier avec mon Père, je vais aller parler avec mon Père ». C'était la priorité de sa journée. C'était la priorité de sa vie. Lui, Christ est sa vie, il est Christ, mais sa relation qu'il a avec son Père, c'est sa vie aussi. Cette union qu'il avait avec lui, c'est ce qu'il avait de plus cher. Est-ce que c'est ce qu'on a de plus cher? C'est la priorité de notre temps, c'est ce temps d'intimité. Est-ce que vous prenez le temps d'intimité avec Dieu? C'est une bonne chose. Est-ce que vous avez goûté que Dieu est bon? Prendre le temps de prendre ce lait comme des enfants de nouveau-nés. Prendre le temps de pas juste se nourrir de notre pain quotidien que Dieu nous donne, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu aussi. Prendre un temps avec Dieu, c'est bon. Parce que Christ est ma vie. Mais c'est bon aussi parce que c'est un temps d'arrêt. Ça fait longtemps que je connais le Seigneur, puis est-ce que j'ai besoin de m'arrêter pour le prier? Ben, je le prie tout le temps. J'ai-tu besoin de m'arrêter? Je suis un peu toujours en prière, tu sais, quand j'ai une mini-requête, je lui envoie. J'ai-tu besoin de m'arrêter pour ça? Ou ça fait longtemps, j'ai lu beaucoup la Bible déjà, là. Est-ce que j'ai besoin de m'arrêter pour continuer de la lire? Oui, c'est bon que de s'arrêter. C'est bon de s'arrêter avec Dieu. Est-ce que Jésus s'arrêtait avec son Père? Oui. Est-ce que je vais m'arrêter aussi dans nos vies effrénées qu'on parlait tantôt, où une activité emmène une autre, puis une autre, puis une autre, puis à la fin d'une journée, on n'a pas tout fait ce qu'on voudrait faire? Mais est-ce qu'on a mis quand même un frein, à un moment donné, dans cette journée, ou peut-être au début de la journée, mais pour dire... C'est bon d'être avec Dieu. Christ est ma vie. Je vais prendre le temps de m'arrêter. Je vais prendre le temps de m'arrêter pour être avec lui. Psaume 46 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu domine sur nos vies aussi. » Il y a un danger de croire qu'on est en communion avec Dieu puis qu'on ait une vie parallèle finalement à Dieu. Parce qu'on ne s'arrête pas souvent pour voir est-ce que je marche avec Dieu ou est-ce que Dieu est un élément dans ma vie qui me suit puis qu'à un moment donné, je vais utiliser. Ou est-ce que Christ est ma vie? Le temps de s'arrêter, c'est une bonne chose pour régulièrement faire le point. En Église, on le fait aussi de s'arrêter. Quand on prend la table du Seigneur, on s'arrête. On s'arrête dans nos pensées. On arrête nos cœurs, puis on se place devant Dieu, puis on se dit, j'en suis où? J'en suis où, Dieu, avec toi? Chaque fois que vous en prenez, vous annoncez la mort du Seigneur. Jésus est mort pour ma vie. Jésus est mort pour mes péchés. J'en suis où dans ma marche avec lui? C'est le temps de s'arrêter. On le fait en Église, puis régulièrement, le mercredi matin, on peut s'arrêter. Je dis le mercredi, mais c'est bien tous les jours de s'arrêter avec Dieu. Mais dans ce qu'on a de plus banal dans nos journées, c'est bien que de s'asseoir avec Dieu. les disciples quand ils étaient dans la barque. Tu sais, pendant la tempête, vous en souvenez? Jésus dormait. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux autres? Ils avaient peur, puis ils ramaient. Puis ils ramaient, puis ils ramaient, puis ils ramaient, puis ils ramaient. Puis à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il a fallu qu'ils arrêtent parce que ça menait à rien. Puis là, ils sont allés voir Jésus. On a besoin de toi. On a besoin de s'arrêter régulièrement pour aller à Jésus. Dire, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu viennes à moi. J'ai besoin que cette journée, elle ait un sens. J'ai besoin que cette journée, elle aille dans la direction que tu veux que je prenne. Et on a besoin de s'arrêter. Mais c'est bon de s'arrêter. C'est bon que d'avoir ce temps d'intimité avec Dieu. C'est bon que d'avoir ce temps d'arrêt avec Dieu. De s'arrêter, de savoir que Dieu est Dieu. Ça paraît banal, hein? On a besoin de s'arrêter pour s'en souvenir des fois. Dieu est Dieu. Prendre un temps avec Dieu, c'est bon parce que c'est ressourçant. C'est rechargeant. Tournez avec moi dans Luc 5. Pendant que vous tournez, je vais me recharger. J'ai une drill à la maison. Une drill qui fonctionne à batterie. Puis, très performante, elle fonctionne bien. Mais à un moment donné, la pile, la batterie est rendue tellement faible que j'ai la misère à rentrer une simple vis. Ou à un moment donné, hop, elle arrête en plein milieu, puis il n'y a plus rien à faire. Savez-vous ce qu'il faut que je fasse avec cette batterie-là habituellement? Je la place à l'écart, puis je la mets sa charge pour qu'elle prenne son énergie, pour qu'elle puisse être rechargée. Mais il faut que je la débranche, puis il faut que je la mette à l'écart, puis que je la mette sa charge pour qu'elle puisse se ressourcer, se recharger. Mais nos vies spirituelles, c'est la même chose. On a besoin de ce ressourcement régulier avec Dieu. Jésus le faisait, puis Jésus l'a enseigné à ses disciples. Luc 5, versets 15 et 16. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi, de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se retirait dans les lieux déserts pour prier. Jésus prenait le temps de se retirer et de se ressourcer avec son Père, de se recharger avec son Père. Je suis convaincu que c'est un point avec lequel Jésus a dû avoir des priorités. Puis il a dû lutter. Parce qu'il en a vu des gens qui avaient besoin. Il en a vu des possibilités puis un potentiel à aller à gauche puis à droite puis à être très actif partout. Mais à un moment donné, de prendre le temps puis d'aller se recharger avec son Père, d'aller se ressourcer. Il pouvait avoir toutes sortes de besoins autour de lui, mais lui avait un besoin d'être avec son Père. Jésus se retirait plus qu'une fois par jour avec son Père. Est-ce que mon besoin est une fois par jour de me retirer avec Dieu? On pourrait s'encourager de prendre un temps de culte personnel quotidien. Mais Jésus même avait ce modèle de nous en donner même, d'en prendre plus qu'un, prendre régulièrement du temps avec son Père, se ressourcer. À un moment donné, les disciples revenaient tout heureux que d'avoir fait toutes sortes d'œuvres, se réunir autour de Jésus puis lui rendre compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Puis Jésus leur dit, « Venez avec moi dans un endroit isolé et vous prendrez un peu de repos. » Venez avec moi dans un lieu isolé pour prendre du repos. S'asseoir avec Dieu, dans un temps avec lui, si Christ est ma vie, c'est ressourçant que de m'asseoir avec lui puis de refaire le point, de me laisser remplir par lui, qu'il puisse venir calmer des choses dans ma vie où j'ai l'impression que j'ai perdu le contrôle, puis je m'assois, puis Dieu recharge mon âme, mon esprit, mon être de sa personne. J'ai besoin de ce temps d'isolement avec Dieu régulièrement. Prendre un temps avec Dieu, c'est bon parce que c'est un dialogue. Ce matin, je ne veux pas simplement vous encourager, comme je disais tantôt, à lire votre Bible. Oui, je vous encourage à le faire, mais il ne faut pas se limiter à ça. Parce que Jésus a fait des reproches. Tournez avec moi dans dans Jean 5. Jésus a fait des reproches à des Juifs, à des pharisiens, qui aimaient bien lire, mais qui échappaient, par exemple. C'était quoi l'intention qu'il y a derrière la lecture? Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Lire les Écritures, les connaître, c'est une bonne chose. C'est important. C'est même indispensable à la connaissance de ce que Dieu est, de ce que Dieu veut. Mais il faut que ça nous conduise vers ce témoignage de c'est qui Dieu. S'asseoir avec Dieu, c'est un dialogue. Oui, dans un temps avec Dieu, je peux prendre le temps de lui exposer mes requêtes. Je peux prendre le temps de laisser Dieu me parler. C'est pour ça qu'on appelle ça la parole de Dieu. Parce que Dieu parle à mon cœur. Puis même dans ces temps où j'ai peut-être rien à dire, peut-être que je devrais rien dire. Puis laisser Dieu me parler. Si Dieu m'a donné son esprit, puis son esprit habite en moi, est-ce que son esprit peut me parler? Est-ce que son esprit peut illuminer mon cœur? Est-ce que son esprit peut révéler des choses dans ma vie qui ont besoin d'être transformées? Bien oui. Puis c'est bien. C'est bien que de laisser ces temps-là à Dieu pour lui laisser le temps de parler. Quand on a un dialogue avec quelqu'un, ben on parle, puis on laisse parler aussi. Psaume 37,7 dit « Demeurez en silence devant l'Éternel. » C'est une bonne chose d'être en silence des fois devant Dieu. Ecclésiaste, Salomon disait « Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour parler, mais il y a un temps aussi pour garder silence des fois. » Lamentation, il est bon d'attendre en silence de l'Éternel la délivrance. Ésaïe disait « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » C'est un dialogue que j'ai avec Dieu où à un moment donné, je m'assois puis je laisse Dieu me parler. Où je calme mon cœur, je calme mes pensées puis je laisse Dieu me parler. Ça, des fois, c'est nécessaire. Des fois, c'est bon qu'on ferme les sources de distraction autour de nous aussi. Daniel s'enfermait dans sa chambre pour aller prier. Jésus se retirait dans un lieu désert pour être en communion avec Dieu. Pour avoir ce temps avec Dieu, c'est bien que de se retirer pour avoir ce dialogue-là efficace. Vous souvenez-vous quand Dieu a parlé à Élie? Hein, Dieu a fait passer des grandes choses devant la grotte où Élie était. Puis comment est-ce que Dieu lui avait parlé? Dans un murmure, dans un petit vent doux et léger, dans un petit murmure, où est-ce que c'est là que Dieu s'est adressé à lui? C'est bien que d'avoir ce dialogue avec Dieu où on a le temps de s'asseoir, de calmer nos cœurs. Christ est ma vie et c'est bon que de m'asseoir avec lui. Une autre raison, c'est parce que ça me transforme. M'asseoir avec Dieu, quelques temps comme ça régulièrement, quelques minutes comme ça régulièrement, ça me transforme. Je peux prendre 30 minutes d'exercice par jour, puis ça va me transformer. Vous pouvez prendre une heure de votre temps par semaine pour rénover votre maison, ça va transformer votre maison. Prendre quelques minutes par jour avec Dieu, ça va te transformer. Est-ce que tu crois ça? Crois-tu que Dieu est le potier, que tu es l'argile, qui peut te transformer? Crois-tu que c'est bon que tu sois transformé? J'en ai besoin. J'ai besoin d'être transformé. J'ai besoin que Dieu place ses mains sur ma vie pour qu'il me transforme. Ma connaissance va être transformée. Ma connaissance de qui est Dieu. Peut-être la connaissance de qui je suis aussi. dans Jean 17, Jésus priait pour nous. Jésus priait pour ses disciples. Puis il a dit, « Sanctifie-les par ta parole. » Puis ta parole est la vérité. Dieu nous transforme par la vérité. Dieu nous transforme par sa parole qui est la vérité. Puis ça, c'est bon. J'apprends à connaître Dieu. Ma connaissance de Dieu est transformée. Mais ma propre vie est transformée aussi par Dieu. Dieu, ce qu'il veut faire, c'est aussi me préserver de l'erreur. Dieu veut me préserver de l'erreur. Est-ce qu'il y a de l'erreur? Est-ce qu'il y a des pièges que le malin place autour des croyants constamment? Il y a plein de choses que vous allez entendre, plein de choses que vous allez lire, plein de choses que vous allez penser. Puis Dieu veut te protéger. Dieu, c'est un père qui prend soin de ses enfants puis qui veut nous protéger de l'erreur. Mais il nous transforme pour qu'on soit à l'affût de plus en plus de sa connaissance, de sa parole, de ce qu'il est. Prendre ce temps-là avec Dieu, c'est un temps où Dieu me transforme. Puis des fois, des circonstances que je vis me font mal, peuvent être difficiles, peuvent être troublantes. Puis Dieu donne la consolation. Dieu donne la réparation. Dieu donne le réconfort. Et ça, ça me transforme. Croyez-vous que c'est bon que de prendre un temps avec Dieu? Que de s'asseoir avec Dieu? Ce que j'aimerais qu'on s'encourage ce matin, c'est de considérer de mettre à part ce temps-là régulièrement avec lui. Pour le connaître, pour se laisser connaître. Avoir ce temps d'intimité, ce temps d'être transformé. Un temps d'être en dialogue avec lui. De goûter qu'il est bon. Dieu, c'est une personne. Dieu, on s'adresse à lui comme une personne. Et ça, c'est bien. Il nous a créés à son image pour qu'on puisse avoir cette relation-là avec lui. Christ est ma vie. Partager un temps avec lui assis, c'est bon. J'ai apporté une deuxième illustration que je vous ai déjà apportée, puis je la croyais pertinente ce matin. Imaginez que vous terminez mercredi matin, vous avez fait votre culte personnel, et là, vous avez pris quelques minutes avec Dieu. Prendre ce temps-là, comme on vient de résumer, qui est bon pour nous, que Dieu désire, que Dieu veut. Et puis là, peut-être que j'ai partagé à Dieu différents fardeaux, différents défis, différentes choses. Puis, ce temps-là se termine, puis là, la journée continue. Il est où Dieu? Qu'est-ce que je fais avec Dieu maintenant? Un chrétien, ça vient à l'église le dimanche matin, c'est bien. Ça peut aller le dimanche soir, ça peut aller d'une bergerie, c'est bien. C'est des temps qu'il faut mettre à part, c'est bien, c'est bien, c'est bon. C'est bien. C'est un résumé. On va plus vite, on essaie de gagner du temps. Mais là, je pars ma journée, puis là, je m'en vais à l'auto, puis là, je peux aller au travail, je m'en vais porter les enfants à la garderie, ou je m'en vais voir de la visite, ou je m'en vais faire un service quelconque, quoi que ce soit. Et puis là, vous vous souvenez de ma valise? Pour ceux qui l'ont déjà vue. Est-ce que je traîne Dieu avec moi? Là, je pars, puis là, ben Dieu, on s'en va faire ma journée. Et puis, comment je fais pour traîner Dieu? J'emploie un terme péjoratif un peu, là. Mais est-ce que je traîne Dieu comme ça toute la journée? Je m'en vais au travail, puis là, ben, je traîne Dieu. Et puis, je m'en vais porter les poubelles au bord du chemin, mais j'apporte Dieu avec moi. Je suis quand même pas pour laisser Dieu là. Mais là, Dieu, je m'en vais faire juste une petite commission. Ben, peut-être que je peux te laisser là, Dieu, OK? Pendant un instant, je vais faire ça vite, je reviens. Et puis là, on dirait que des fois, quand on a cette perspective de traîner Dieu, ben là, des fois, on se dit, peut-être que Dieu, dans certaines circonstances, garde dans des banalités de la vie, je peux peut-être le laisser là, là. Puis là, quand il va y avoir des événements importants, mais là, on va ramener Dieu, hein? On va retraîner Dieu avec nous, puis on va le traîner. Mais des fois, dans les banalités, j'en ai peut-être pas nécessairement de besoin. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Est-ce qu'il y a des temps ou des circonstances qui sont tellement banales que j'en ai pas de besoin? J'ai besoin de la vie. J'ai besoin de ma vie. S'il est ma vie, je peux pas le laisser traîner en arrière. Je peux pas le... Paul, il dit... Vous pouvez tourner avec moi dans 1 Corinthiens 10, verset 31. Vous connaissez bien ce verset-là. Ou du moins, vous l'avez peut-être déjà entendu. De prendre un temps assis avec Dieu, c'est bon. Mais de prendre un temps avec Dieu pour le reste de la journée quand je suis debout ou quand je suis couché, c'est bon aussi. Et Paul il dit, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Manger et boire, il me semble que c'est des banalités de la vie, hein? Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, quand je me prends un verre d'eau, c'est assez banal. Puis pourtant, Dieu est en train de nous dire, faites tout pour la gloire de Dieu, que ma vie en entier le glorifie. Que mon être entier le glorifie, que quelque action que je vais faire, que je le glorifie. Là, est-ce que ça veut dire que je vais traîner Dieu comme un sac à dos à longueur de journée? À vous maintenant qui dites, aujourd'hui et demain, ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Jacques, il leur répond, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. De penser que, moi j'ai une relation avec Dieu, mais là, quand ça va être le temps de trafiquer, d'aller faire des affaires avec Dieu, pas avec Dieu, mais dans mes affaires, ben aujourd'hui ou demain, mais je vais le laisser là. Ce que Dieu me dit, c'est que quand je prétends que j'ai pas besoin de lui, puis que je peux le laisser en arrière, c'est de l'orgueil. Parce que je suis capable tout seul. Parce que Dieu n'a pas besoin de faire partie de tous les aspects de ma vie. Et c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Un chrétien vit ça comment? Que Christ est sa vie. Que Christ est ma vie. Tournez avec moi dans Éphésiens 1. Le prix qu'on a coûté à Dieu était élevé. Et quand Dieu nous a rachetés, on ne s'appartient plus à soi-même. On appartient à Dieu. Et quand Dieu nous a rachetés, dans Éphésiens 1, versets 11 à 14, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Dieu opère sa volonté, il le fait comme il le veut, et sa volonté était qu'on soit ses héritiers. Qu'on soit les héritiers de Dieu. Ça veut dire que pour moi, en tant qu'enfant de Dieu, le mercredi dans la journée, je suis un héritier du Dieu vivant. Je suis un héritier de Dieu. Des fois, on oublie ça, hein? Des fois, on oublie que de ces privilèges que Dieu nous a accordés. On prend le temps de s'en souvenir le matin, c'est bien. Puis dans les aspects de notre journée, verset 12, « Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. » Pourquoi est-ce que Dieu s'est acquis vos vies? Pour célébrer sa gloire. Dieu nous a fait devenir ses héritiers et le sens de nos vies, le sens de nos journées en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'on puisse glorifier Dieu. C'est qu'on puisse, dans tous les aspects de nos vies, glorifier Dieu. Mais tout à coup, qu'à un moment donné, j'ai pensé qu'un événement de ma vie était tellement banal que j'ai laissé Dieu en arrière. Et puis là, je suis allé faire une commission. Évidemment, Dieu, vous comprenez l'image, hein? Dieu, on le laisse pas, il ne nous laisse pas comme ça l'abandonner, là. Mais comment est-ce que je glorifie Dieu quand dans mon esprit, j'ai eu cette pensée orgueilleuse, comme Jacques l'a dit, de dire, ben, je laisse Dieu en arrière, puis je vais faire mes plans. Comment je glorifie Dieu quand je fais ça? Comment je glorifie Dieu quand vient le temps de manger ou de boire, comme ce que Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10? Des fois, on emploie l'expression le film de notre vie. Je ne sais pas si on va le voir, hein? J'emploie cette illustration-là des fois parce que je trouve qu'elle résume bien à quoi vont ressembler nos vies à la fin. Imaginons qu'on aurait l'occasion de voir nos vies une fois qu'on est décédé et qu'on voit le film de notre vie. Ça va être qui l'acteur principal du film de votre vie? Est-ce que ça va être toi ou est-ce que ça va être Christ? Si Christ est ma vie, ça devrait être lui l'acteur principal. Si je veux que ma vie ressemble à un mauvais film de série B, j'ai juste à prendre le contrôle de ma vie. Mais si je veux que ça soit quelque chose de bien, d'efficace, d'agréable, Dieu, Christ doit être ma vie. Plusieurs chrétiens se découragent à cause qu'ils ont la perception qu'ils doivent traîner Dieu dans plusieurs aspects de leur vie. Parce qu'ils arrivent à un point où ils trouvent ça peut-être encombrant. Ils ont l'impression qu'il faut traîner Dieu. Je peux avoir cette impression-là que, dans certains aspects de ma vie, j'apporte Dieu avec moi. Puis on se décourage. On a l'impression de trouver ça lourd. Dieu, as-tu besoin d'être traîné comme ça? Est-ce que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit dans notre perspective, qu'on le traîne, qu'on l'emmène avec nous? Si Christ est ma vie, dans Éphésiens, il nous dit qu'on devrait se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Romains 13 nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. C'est beaucoup plus facile quand je revêt Christ. Vous vous souvenez ce qu'il y avait à l'intérieur, pour ceux qui l'ont déjà vu? Ce que Dieu nous dit, c'est de le revêtir. Christ est ma vie. Dieu n'est pas encombrant. Dieu, c'est ma vie. Dans tous les aspects de ma vie, dans ce qu'il pourrait y avoir de plus banal. Revêtez Christ, que la parole de Dieu nous dit. Se revêtir de lui. Est-ce que quand je vais boire de l'eau, Dieu est avec moi? Quand je vais manger, est-ce que je peux glorifier Dieu? Quand je vais porter les poubelles au bord du chemin, quand je change la couche du petit, quelle que soit l'activité que je fais, un enfant de Dieu, c'est quoi? C'est plus que d'apporter Dieu le dimanche matin à l'église. C'est de l'avoir revêtu le mercredi avant-midi, puis après-midi, puis le reste de la semaine, dans ce qu'on a de plus quotidien dans nos journées, qu'on a revêtu Christ. C'est bon que d'avoir ce temps avec Dieu, où je peux avoir ce temps d'intimité avec lui, goûter qui est bon, être transformé. Je vous encourage à découvrir cette relation-là qui ne doit pas être mécanique, mais qui doit vraiment être une relation de cœur à cœur avec Dieu. Puis quand vous avez terminé ce temps-là, assurez-vous de quitter ce temps-là où vous avez revêti Christ, où il fait partie de votre vie, où il est votre vie. Christ est ma vie. L'année 2011 est devant nous. Il y a plein de jours qui nous attendent. Comment est-ce qu'on va les vivre, ces journées-là? Est-ce que l'année 2010 a été caractérisée par une croissance dans votre relation avec Dieu par rapport à l'année 2009? J'espère que oui. Mais que 2011 en soit une année caractérisée par cette croissance-là avec Dieu, où vous aurez le temps d'être transformé dans ce temps avec lui que vous aurez régulièrement. Dans ce temps où vous allez vivre avec lui et vous rappeler que la journée que Dieu vous a donnée ce matin, c'est pour célébrer sa gloire. C'est pour le glorifier. Est-ce qu'il y a d'autres priorités qui viennent avant ça? Si on perd l'objectif de notre vie, c'est l'espérance, c'est l'espoir, c'est le découragement que l'on a. Pas l'espoir, mais la perte de cet espoir-là. Que l'année 2011 soit pour nous une occasion de faire des pas avec Dieu, de marcher avec Dieu, de découvrir qui il est, qu'on marche de progrès en progrès. Seigneur, on vient devant toi pour te louer et t'adorer. Seigneur, c'est pas de trop que de se souvenir, ne serait-ce qu'une fois par année, que c'est important de s'asseoir avec toi, que d'ouvrir ta parole, que de te laisser nous parler, que toute notre journée, que tous nos jours qui sont devant nous, que tu sois la priorité de nos vies. C'est pas de trop, Seigneur, que de se le rappeler une fois de temps en temps. Seigneur, on ne veut pas avoir des vies caractérisées par la poursuite du vent, par la vanité. On ne veut pas constamment courir après notre temps, après nos activités, après des choses. Mais Dieu, on veut être avec toi. On veut marcher avec toi. On veut être actif là où tu es actif. On veut bâtir la maison là où tu l'as bâtie. Mais on a besoin de ta sagesse, Dieu. Nos vies sont tellement courtes. On ne veut pas les perdre. On ne veut pas les échapper, juste à les laisser aller par différentes activités. Mais on veut que nos vies te glorifient. On veut que notre journée du dimanche, mais que toutes les journées de la semaine, incluant celle du mercredi, et que toutes nos vies soient caractérisées par toi qui es notre vie. Dieu, on a besoin le temps de s'arrêter, de se rappeler qui tu es. On a besoin de se rappeler qui on est aussi. Dieu, on veut t'abandonner le contrôle de nos vies, et ce, à chaque jour. On veut te consacrer cette année qui est devant nous, pour que toi seul sois glorifié. Même dans nos banalités de nos vies, on veut que tu sois glorifié, Dieu, que tu sois élevé. Et merci parce que c'est toi le premier qui manifeste constamment ce désir d'être avec nous, de s'asseoir avec nous, de te faire connaître, de nous connaître. Peut-être qu'on t'a oublié quelquefois, Dieu, au courant de l'année. Peut-être qu'on va t'oublier au courant de l'année qui s'en vient. Mais Dieu, toi, tu demeures fidèle quand nous, on est infidèles. Puis on veut te louer pour ça. Merci de nous encourager. De nous rappeler que tu es toujours intéressé. Que tu ne te tannes pas, Dieu, de constamment frapper à nos portes pour manger avec nous. C'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te prie ces choses. Amen.